Radio Vatican, France et Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée samedi 18 septembre, notamment par les audiences du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en Algérie, en Guinée et au Nigeria, entre autres.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Commençons par l'actualité de l'Église avec la semaine du pape, présentée par Donatien Niembo.
Le pape a reçu samedi en audience privée le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques. Puis le cardinal Renard Mars, archevêque de Munich et de Freising en République fédérale d'Allemagne et coordinateur du Conseil pour l'économie. Suivi de Mgr Leo William Casley, archevêque de St. Andrews et d'Edinburgh en Grande-Bretagne et enfin une délégation des fidèles du diocèse de Rome. Vendredi, le Saint-Père avait reçu le président de l'Irlande, M. Michael Hingens, puis le cardinal Gualtiero Bassetti, archevêque de Perugia, Città della Pieve et président de la conférence épiscopale italienne. Mgr Nicola Girasoli, nonce apostolique au Pérou, et enfin les participants à la rencontre promue par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Le même vendredi, François avait accordé son assentiment à l'élection du révérend archimandrite Georges Masri comme archevêque métropolitain d'Alep en Syrie. Mardi, le Saint-Père avait nommé le père Albino Barrera, professeur de théologie morale aux États-Unis d'Amérique, comme membre ordinaire de l'Académie pontificale des sciences sociales. Il avait également nommé président de l'Académie pontificale romaine d'archéologie les docteurs Maurizio Sanibale, conservateur du département d'archéologie de la direction des musées et des biens culturels du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. Du 12 au 15 septembre, le pape François a effectué son 34e voyage apostolique qu'il a conduit successivement à Budapest où il a participé à la messe de clôture du Congrès Eucharistique International, puis en Slovaquie, avec plusieurs rencontres, notamment avec le Conseil œcuménique des Églises, la communauté hébraïque, la communauté rome de Slovaquie ainsi que des nombreux jeunes. On gardera en mémoire l'image du pape François participant à la divine liturgie selon le rite de Saint Jean Chrysostome.
Le cardinal Robert Sarah, archevêque émérite de Conakry et ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, s'est adressé au Comité national pour le redressement et le développement de la Guinée dans une lettre datée du 13 septembre. Une junte militaire dirigée par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya est au pouvoir en République de Guinée depuis la destitution le 5 septembre d'Alpha Condé. Aux yeux du cardinal Sarah, une nouvelle génération de responsables politiques mûs par la volonté de promouvoir la paix et la concorde est nécessaire pour un meilleur avenir. Le courrier du cardinal Sarah intervient alors que depuis le 14 septembre, la junte au pouvoir a débuté de larges consultations avec les acteurs politiques, les chefs religieux, les acteurs de la société civile, pour définir une transition qui devrait à terme ramener un civil à la tête de la Guinée. Au Soudan du Sud, les évêques ont déploré l'absence de progrès dans l'enquête et ont demandé que justice soit rendue le plus rapidement possible pour l'attaque il y a un mois d'un bus transportant des religieux et des fidèles catholiques ayant causé la mort de 5 personnes, dont 2 religieuses membres de la Congrégation du Sacré-Cœur. Nous condamnons sans réserve ce qui s'est passé, ont déclaré les évêques demandant que les tueurs soient identifiés et tenus responsables de leurs actes. Les évêques ont également exprimé leur crainte que cette tragédie puisse cacher une tentative de faire dérailler le processus de paix dans le pays. Support and Action est une initiative lancée par le diocèse de Masvingo au Zimbabwe pour mettre fin à la violence sexiste. Coordonnée par la Caritas locale, le projet vise à l'autonomisation des femmes et se déroule en quatre phases. La première consiste à présenter l'initiative aux familles et aux communautés. Cela conduit à la deuxième phase au cours de laquelle chacun prend conscience du problème de la violence sexiste. Ensuite, dans la troisième étape, les femmes sont soutenues économiquement afin qu'elles deviennent autonomes et dans la quatrième étape, marquées par l'action, elles sont en mesure de participer pleinement au processus de décision, tant au niveau familial que communautaire. Rendons-nous en République démocratique du Congo où une église paroissiale a été fermée temporairement après sa profanation, récit de notre correspondant local.
Au diocèse de Kikwit, dans la province du Kwilu, l'église paroissiale Saint-Joseph Mukasa de la ville de Kikwit est fermée temporairement pour une durée de 3 mois. Le Saint-Sacrement est déplacé de l'église jusqu'au rite de la réparation. Ainsi l'a décidé récemment l'évêque de Kikwit, Monseigneur Timothée Bodika, après la profanation de l'église paroissiale et de la cure par un groupe de jeunes coupables d'avoir jeté dans la nuit du 16 août des pierres et autres projectiles et d'avoir barricadé au matin suivant les deux accès de l'église. C'était après la publication des affectations du clergé diocésain pour l'année 2021-2022. Le décret épiscopal précise que les fidèles peuvent aller prier dans des paroisses voisines, que l'équipe sacerdotale est affectée ailleurs, que tous les assistants paroissiaux sont mutés dans d'autres paroisses et que le conseil paroissial est dissous et que ses membres déchus sont inéligibles pendant 3 ans. L'évêque de Kikwit révoque les membres de la commission paroissiale des jeunes. Avec leurs complices de la profanation des lieux sacrés, ils sont inéligibles aux différentes responsabilités ecclésiales pendant 9 ans. Ils ont choisi la violence pour désobéir à un acte souverain de l'évêque, malgré le fait que l'aumônier et la commission des jeunes leur avaient rappelé leurs droits et devoirs, le sens de l'église et la manière de gérer les conflits en église. Jean-Baptiste Malenge Kalouzou pour Radio Vatican.
Au Congo-Brazzaville, Jean-Pierre Massamba plaide pour une réconciliation nationale. C'était lors d'une conférence débat organisée par la branche congolaise du Mouvement international de réconciliation MIR à Pointe-Noire, des détails de notre correspondant local.
Pour le coordonnateur national du Mouvement international de la réconciliation, le Congo a besoin de la justice restauratrice, n'est-ce pas maître Jean-Pierre Massamba?
Effectivement, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan des relations entre personnes. Il nous semble que le système de la justice tel que ça se pratique aujourd'hui ne favorise pas le rétablissement de la paix nécessaire entre les personnes. Maintenant aussi, au niveau de la justice collective, avec tout ce que le pays a connu comme difficultés, comme déchirures, où il y a besoin de guérison collective, besoin de réconciliation. Et là aussi, la justice restauratrice a bel et bien sa place. Et ça manque encore chez nous. Parce que toutes ces personnes blessées, avec tout ce que nous avons connu comme violence collective, il faut nécessairement parvenir à une forme de justice qui puisse favoriser la restauration de la paix. Mais il nous semble que notre système aujourd'hui ne le permet pas. Notre système, il faut aussi trouver d'autres modes, des modes alternatifs de justice. Par exemple, la médiation par rapport à des conflits. Et ça, c'est plus pratique aussi et ça rentre même dans notre culture traditionnelle et aussi dans la culture moderne. Alors nous pensons qu'il faut un travail d'éducation, de sensibilisation à tous les niveaux.
Sévère Monsavo, Pointe-Noire pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les forces de sécurité nigérianes ont libéré un officier de l'armée enlevé en août dans une académie militaire d'élite dans le nord-ouest du pays. Un gang armé avait pris d'assaut le 24 août l'Académie de défense du Nigeria, école de formation d'élite du pays à Kaduna, tué 2 officiers et en avait enlevé 1/3. L'armée a lancé vendredi un raid contre un repère de ce gang où l'officier kidnappé était détenu dans la région d'Afaka, non loin de l'Académie militaire, a indiqué l'armée dans un communiqué publié vendredi soir. Les bandits ont engagé un échange de tirs avec les troupes et au cours de cet échange, les soldats ont pu sauver l'officier enlevé qui a été légèrement blessé, a indiqué l'armée. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont en proie depuis de longs mois à des bandes criminelles connues localement sous le nom de bandits qui pillent des villages, enlèvent et tuent les habitants et volent le bétail. L'armée a affirmé que plusieurs camps de bandits ont été détruits et que des dizaines de bandits ont été tués au cours de l'opération. En Algérie, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika est décédé vendredi à l'âge de 84 ans, c'est ce qu'a annoncé la télévision publique. Décès de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika a indiqué un bandeau déroulant à la télévision nationale qui cite un communiqué de la présidence de la République. Depuis sa chute en avril 2019 sous la pression de l'armée et de la rue, M. Bouteflika était resté retranché dans sa résidence médicalisée de Zeralda à l'ouest d'Alger. Sa chute était devenue inéluctable après des semaines de manifestations massives contre sa volonté de briguer un cinquième quinquennat après 20 ans au pouvoir. Un député tunisien opposé au président Kais Saied a été arrêté par des policiers en civil vendredi alors qu'il se rendait au tribunal militaire de Tunis pour se présenter devant un juge d'instruction. Seyfeddine Makhfouf, chef d'Al-Karama, a été poursuivi par la justice militaire après avoir perdu son immunité à la suite du coup de force du président Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet. Il fait l'objet des mandats d'amener émis par la justice militaire depuis le 2 septembre pour une affaire liée à une altercation survenue en mars à l'aéroport de Tunis. Monsieur Makhlouf ainsi que deux autres députés de son bloc sont soupçonnés d'avoir insulté des agents de la police des frontières qui avaient interdit à une femme de voyager.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Une mission ouest-africaine comprenant deux chefs d'État a présenté vendredi en Guinée au chef des putschistes, le colonel Mamadi Doumbouya, l'exigence d'élection dans les 6 mois, un délai a priori inconciliable avec ses vues. La réponse du chef de la junte aux exigences de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest que sont venus lui présenter le président ghanéen Nana Akufo-Addo et son homologue ivoirien Alassane Ouattara n'était pas connue dans l'immédiat. Monsieur Akufo-Addo, dont le pays assure la présidence tournante de l'organisation, a évoqué une discussion franche avec le chef de la junte dans une déclaration à la télévision guinéenne à l'aéroport avant son départ. « Nous sommes en train de discuter », avait-il indiqué auparavant au sujet de la position du colonel Doumbouya, lui-même reparti sans faire de déclaration à l'issue des discussions dans un hôtel de Conakry. M. Ouattara a simplement assuré que les entretiens s'étaient très bien passés. Le colonel Doumbouya est en train de faire les consultations intérieures au pays. Il attend les conclusions de la concertation nationale qu'il a lancée mardi sur la transition censée aboutir au rétablissement d'un pouvoir civil, avait ajouté le président ghanéen. Par ailleurs, la junte militaire guinéenne a affirmé que l'ex-président Alpha Condé, détenu depuis le putsch du 5 septembre, dont la communauté internationale réclame la libération, resterait dans son pays. Cette mise au point, dans un communiqué lu vendredi soir sur la télévision publique, est intervenue peu après le départ d'une mission de deux chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a insisté sur son exigence d'une libération de M. Condé. À présent, la méditation des textes liturgiques de ce dimanche.
Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui l'évangile de Marc que nous allons méditer ce dimanche nous raconte comment Jésus s'entretient avec ses disciples sur le mystère de sa passion. Il traverse la Galilée et il dit à ses disciples: « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Comme le chapitre 8 de Marc que nous avons lu le dimanche dernier, Le chapitre 9 de Marc semble converger vers la souffrance du Christ. En effet, la passion et la résurrection sont deux mystères que Jésus veut apprendre à tous ceux qui désirent le suivre comme disciples. Ainsi, pendant qu'il s'exerçait à apprendre aux apôtres l'amour profond qu'il allait exprimer en mourant sur la croix, ironiquement, ceux-ci pensaient tout autrement. Il semble qu'il y a un décalage entre le langage de Jésus et les ambitions de ses disciples. Non seulement les disciples ne comprenaient pas les paroles de Jésus, mais ils étaient surtout préoccupés par autre chose, c'est-à-dire de l'ambition fausse, de la vanité, de l'égoïsme et de la rivalité. Ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand ou qui est le plus grand, qui est le meilleur dans le groupe. Les disciples raisonnent avec les critères du monde. Ils pensent que être grand se réfère au pouvoir, au rapport de force, bref, à la supériorité des uns par rapport aux autres. Chers frères et sœurs, agissons-nous d'une manière différente? Qui d'entre nous n'a pas eu l'ambition de se sentir plus grand des autres ou plus célèbre dans le milieu de sa vie? Alors, qui est le plus grand? Qui est le meilleur de tous? Saisissant cette occasion, Jésus invite les disciples à sortir de cette logique de comparaison orgueilleuse, de recherche de grandeur pour apprendre le chemin de l'humilité et de service comme lui-même l'a vécu. Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ensuite, il plaça un enfant au milieu d'eux en signe d'exemple. Chers frères et sœurs, pour nous chrétiens, tout comme pour tous disciples du Christ, la grandeur ne réside pas dans la comparaison orgueilleuse et la recherche du succès, notre reconnaissance aux yeux des autres, mais dans l'innocence de l'enfant. Si Jésus met un enfant en avant comme un modèle à imiter, c'est pour faire comprendre aux disciples que l'important ce n'est pas leur capacité, leur compétence, leur personnalité, ce qu'ils sont capables de faire, bref, la grandeur. Dans l'Église, le fait d'être au service des personnes les plus insignifiantes de la société, les pauvres, les faibles, les oubliés, les méprisés, est un signe de grandeur. Il faut quitter notre logique humaine pour entrer dans la logique de Dieu. Les petits enfants sont plus près que nous du cœur de Dieu. Si vous ne devenez pas comme l'un de ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le plus grand est précisément le petit, et nous sommes là comme en plein paradoxe de l'Évangile. En accueillant un enfant, Jésus nous rappelle où se situe la grandeur, c'est dans les services affectueux des membres les plus faibles de la communauté que l'Église s'est construite. Être grand ou être célèbre ne détermine pas pourtant la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Amen.
Les commentaires du document du magistère Fratelli Tutti avec le père jésuite Martin Baati.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous entamons le quatrième chapitre de notre lecture méditative de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Ce chapitre est intitulé « La meilleure politique ». Il comprend cinq grands points, à savoir populisme et libéralisme, 2. Le pouvoir international, 3. Une charité sociale et politique, 4. L'activité de l'amour politique, 5. Plus de fécondité que des succès. Dès le départ de ce chapitre, le pape écrit « Une meilleure politique mise au service du vrai bien commun est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale capable de réaliser la fraternité à partir de peuples et de nations qui vivent l'amitié sociale. Au contraire, malheureusement, la politique prend souvent aujourd'hui des formes qui entravent la marche vers un monde différent. Parlant du premier point, populisme et libéralisme, le pape écrit, je cite, « Le mépris des faibles peut se cacher sous des formes populistes qui les utilisent de façon démagogique à leur fin, ou sous des formes libérales au service des intérêts économiques des puissants. Dans les deux cas, on perçoit des difficultés à penser un monde ouvert où il y ait de la place pour tout le monde, qui intègre les faibles et qui respecte les différentes cultures. Selon le pape, au cours des dernières années, le terme populisme ou populiste a envahi les médias et le langage en général. Il perd ainsi la valeur qu'il pourrait avoir et devient l'une des polarités de la société divisée, à telle enseigne qu'on prétend classer toutes les personnes, les groupes, les sociétés et les gouvernements à partir d'une division binaire, populiste ou non populiste. Et le pape d'observer qu'il n'est plus possible qu'une personne exprime son opinion sur un thème sans qu'on essaie de la classer dans l'un des deux camps, parfois pour la discréditer injustement ou pour l'exalter à l'excès. Selon l'encyclique, la prétention d'établir le populisme comme une grille de lecture de la réalité sociale a une autre faiblesse. Elle ignore la légitimité de la notion de peuple. La tentative de faire disparaître du langage cette catégorie pourrait conduire à éliminer le terme même de démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple.
Invité du jour.
Notre invité du jour est le père Eugène Adengra, recteur du Sanctuaire Marial National Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Dans cet entretien que nous vous proposons, le père Adengra nous parle du 35e anniversaire de ce sanctuaire marial qui se célèbre du 24 octobre 2021 au 6 février 2022. On l'écoute.
35 ans, ce sont les noces de rubis. Ces 35 ans pour nous représentent 35 ans de grâce, de bénédiction et de bienfaits de Dieu. Comme je l'ai annoncé, je l'ai dit, 35 ans, c'est comme si le sanctuaire existait il y a 350 ans. Parce que nous avons reçu trop de grâces dans ce sanctuaire.
Pas seulement des grâces de chrétiens, mais de tous les enfants de la Vierge Marie.
De tous les enfants de la Vierge Marie et de tout le monde entier, de l'Afrique et le monde, parce que beaucoup sont venus de partout dans ce sanctuaire durant ces 35 ans, ont prié, ont reçu des grâces.
Qu'on soit chrétien ou pas.
Il faut l'avouer que nos frères et sœurs musulmans viennent prier, reçoivent beaucoup de grâces. Nos frères et sœurs protestants, méthodistes, évangéliques viennent prier, reçoivent des grâces. Nos frères et sœurs christianistes célestes viennent prier et reçoivent des grâces. Nos frères et sœurs qui ne sont dans aucune religion, traditionnaliste, bossoniste, tout ce qu'on fait, qui sont venus prier dans ce sanctuaire, ont reçu les grâces. En un mot, la Vierge Marie est la mère de tous les enfants de Dieu. Elle a manifesté sa tendresse maternelle à travers tout le monde, sans faire aucune distinction. Et c'est pourquoi nous voulons célébrer ces 35 ans en disant tout simplement merci à Marie, merci au Seigneur pour tous les bienfaits accomplis dans ce sanctuaire.
Un anniversaire sous le signe de l'action de grâce.
Un anniversaire sous le signe de l'action de grâce, de la reconnaissance des bienfaits de Dieu.
Et déjà, Père, on pourrait avoir le contenu de cet anniversaire.
Le 24 octobre 2021 sera la messe d'ouverture pour les 35 ans. Au cours de cette messe, nous allons d'abord tout simplement retracer les bienfaits de Dieu et de la Vierge dans ce sanctuaire. Le 29 et 30 octobre sera toute une nuit de mille ave pour dire merci à la Vierge. Donc ça, c'est la toute première activité. Nous invitons tous les enfants de Marie à venir passer toute une nuit à réciter « Je vous salue Marie » mille fois pour dire simplement merci, en signe de reconnaissance des bienfaits. Nous aurons nuit d'adoration du 19 au 20 novembre. Toute une nuit d'adoration, une adoration pour dire merci. Être là devant Jésus, être là avec sa mère pour simplement dire merci. Donc nous allons adorer le Seigneur en signe de reconnaissance de son, et adorer la Seigneurie même de Jésus parce qu'il est Dieu et il a fait beaucoup de grâces. Au mois de décembre, le 4 décembre plus précisément, nous célébrerons l'Immaculée Conception anticipée. Ça sera un grand samedi de grâce et de bienfaits. Ça sera une journée d'action de grâce et de bienfaits avec tous les consacrés de Marie dans ce sanctuaire et avec les amis de Saint-Joseph. Et le 8 décembre, donc le mercredi 8 décembre, sera la journée pour clôturer avec Marie et Joseph l'année de Saint-Joseph. Donc nous allons aussi célébrer ça en action de grâce. Il faut dire que c'est vrai, dans ce sanctuaire, nous venons prier le Seigneur, la Vierge, mais nous prions aussi Saint-Joseph, parce que la chapelle d'adoration porte le nom de Saint-Joseph. Et Saint-Joseph aussi a beaucoup intercédé dans ce sanctuaire pour tous ces pèlerins. Au mois de janvier, le 30 janvier, sera la journée d'hommage à la Vierge Marie, où nous allons demander à tous les artistes, à tous ceux qui chantent, à toutes les chorales qui portent le nom de la Vierge Marie, ce sera une journée d'hommage à la Vierge. Et nous allons conclure cela par le dimanche 6 février, par la grande messe d'action de grâce, qui sans doute sera présidée par son éminence Jean-Pierre, cardinal Coutois.
Et déjà, quel est votre mot à l'endroit de tous ces enfants de la Vierge Marie qui ne cessent de bénéficier des grâces de leur mère? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour que cet événement soit vraiment à la hauteur de la Vierge Marie?
Comme nous l'avons dit, c'est le signe de la reconnaissance de l'action de grâce. Je voudrais simplement dire qu'on participe à toutes ces activités en signe de reconnaissance. Il ne faudrait pas que nous soyons ingrats envers Dieu. Il a déjà beaucoup fait, et même trop. Alors, même pour ce pays, nous avons prié ici, le Seigneur, la Vierge, nous accorde. Donc, mon frère, ma sœur, c'est le moment de manifester ta reconnaissance à Dieu et à la Vierge Marie.
C'était le père Eugène Adengra, recteur du sanctuaire marial national Notre-Dame d'Afrique, mère de toute grâce d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il répondait aux questions de Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boabolo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.